on va bien choisir les sujets. Parce que hier, on a un petit peu ramé sur le sujet.
Oui, sur la vitre protectrice de la Tour Eiffel.
Pourquoi ça? Elle était super, Nicolas.
Ouais, écoute.
Est-ce que c'est le genre de sujet qui vous chiffonne un peu ou
vous dites que ça me chiffonne, ça m'intéresse pas du tout.
Elle était pas à fond.
Non, mais ça s'est pas arrangé par la suite.
Mais franchement. Voilà quoi. Il n'y a pas une autre question.
Heureusement, Charline, t'es pas du genre à lâcher, toi.
Alors ça, non.
Je reste à une question, puis si on s'en fout, on s'en fout. Mais les grilles provisoires qu'il y avait autour de la Tour Eiffel, elles deviennent pérennes. C'est un peu comme l'état d'urgence qui devient pérenne. C'est pas le truc qui vous fout
ça
les boules.
Ça vous intéresse ou ce que tu veux t'entraîner ?
C'est une bonne question. Est-ce que ça vous intéresse ?
Ça m'intéresse, mais je suis passionnée par ce sujet.
Oh, pardon.
Même Guillaume a essayé de m'aider.
Oui, c'est vrai.
C'est anxiogène, on essaie de vous aider, Nicole.
Non, j'ai pas de réponse. J'aurais préféré une autre question.
Mais dites que vous êtes d'accord avec nous, c'est bon.
Je suis d'accord avec tout ce que vous dites.
Voilà. C'est un début quand même.
Mais donc, elle a rien dit sur la vitre.
Non, on a quand même eu un happy end.
La vitre fait 7 cm d'épaisseur, c'est justement pour qu'il n'y ait pas d'éclat.
Vous imaginez les pauvres pigeons qui vont venir
s'écraser. En fait, elle se passionnait pour le sujet, mais elle ne savait même pas.
Allez, au travail, maintenant, il faut trouver des nouveaux sujets qui n'intéresseront pas l'invité du jour.
Ah, ça tombe bien, parce que j'ai un excellent sujet sur l'indépendance de la Catalogne.
Excellent.
Bonjour la France Inter, vous écoutez une start-up de l'incubateur Radio France et voici les trois informations qu'on a trouvées sur nos applis smartphones. La Catalogne s'apprête à voter pour son indépendance. Le climat s'envenime avec la saisie de 100 000 tracts de propagande et la pression de la Guardia Civile sur les journalistes.
Que ce soit la révolution ou la paella, dites-vous bien que rien de ce qui est espagnol n'est simple.
La première plainte contre l'obsolescence programmée vient d'être déposée en France. Elle vise des constructeurs d'imprimantes, cet outil dont nous sommes devenus dépendants et qui sont fabriqués pour nous lâcher avant l'heure.
Elle est en panne ?
Non, elle n'est pas en panne, elle attend le coucher du soleil, elle adore ça.
Quelles sont les 10 recherches les plus fréquentes que l'on demande à Google ? Le résultat révèle nos principales préoccupations et c'est pas très reluisant. Si Google pouvait parler, on aurait l'air très con.
Vous posez les mêmes questions les uns et les autres. Vous ne savez pas faire autre chose. Je ne répondrai plus à ces questions.
D'accord Manu, c'est pas grave. Lui, il en pose aussi avec moi, c'est Alex Vizorin.
Bonjour Charline Bellenaker. Et aujourd'hui, autour de la table à 17h20, il y a autant d'Arméniens que de Belges. Autant vous dire qu'on va se faire un Waterzooi de Loukoum avec André Manoukian. Bonjour.
Bonjour Alex, bonjour Charline. Aujourd'hui, j'ai parler d'une des chanteuses que je préfère. Elle est française, elle s'appelle Anaïs et elle n'est pas sans rapport avec le spectacle de notre invitée et surtout cette grande figure qui s'appelait Yvette Guilbert mais qu'on va découvrir tout à l'heure.
Tout à fait, 17h30, celui qui essaye de comprendre la France mais qui n'y arrive toujours pas. C'est comme quand Franck Ribéry dit du subjonctif plus que parfait. C'est Guillaume Meurice, bonjour.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Moi je me suis intéressé à l'affaire du couscous de Philippot évidemment, également des yaourts de Valérie Boyer. Les Français sont inquiets.
Non, moi je mange du caviar et du foie gras.
Bon, il y a des Français qui vont quand même pas trop mal.
Et à 17h40, hier je l'ai lancé sans faire allusion à l'alcool et j'ai eu beaucoup de mails, de plaintes. Donc celle qui est bobo et qui pétille, le spritz de cette émission, c'est Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour.
De quoi on parle ?
Alors d'un de mes péchés mignons. Le voyeurisme.
Très bien.
Très bien. Et je me tourne vers celui qu'on a invité dans notre open space de start-up. Vous avez fait vos classes au Théâtre du Soleil auprès d'Ariane Mnouchkine. Cédric Lapiche vous donne vos premiers rôles au cinéma, notamment dans Chacun cherche son chat. Puis vous tournez pour René Telkavetz, Atom Egoyan ou Robert Guédiguian. En 2001, vous recevez le Molière du meilleur comédien pour Une bête sur la lune de Richard Kalinowski. On a pu vous voir aussi dans un James Bond, Casino Royale et dans les séries Pigalle la nuit et bien sûr Kaboul Kitchen. Donc vous êtes, je vous laisse nous le dire, oh là là, vous êtes...
Le colonel Amanoula.
Ah,
faut mettre deux ailes à la fin, c'est plus...
Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Bienvenue Simon Abkarian.
Merci.
Alors, vous mettez en scène le troisième volet du spectacle de Nathalie Joly, comédienne et chanteuse. Ce spectacle s'appelle Yvette.
La trilogie s'appelle Yvette.
Voilà, c'est en trois volets. Ouais. Yvette Guilbert, elle chante Yvette Guilbert. Ça se passera donc au Théâtre du Soleil. Est-ce qu'on peut déjà dire un mot de cette artiste que moi je ne connaissais pas, qu'on a nous découvert, extraordinaire, Yvette Guilbert, qui vit à la fin du 19e début.
Elle est née en 1865.
Exactement. Et qui a une plume, pas dans sa poche.
Ouais, c'est elle qui commence le parler chanter, c'est elle qui le lance, c'est elle qui invente ce style. Enfin, c'est un peu l'arrière-grand-mère des slammeurs, quoi, on va dire. C'est elle qui milite pour la présence des femmes sur les scènes respectives parisiennes ou ailleurs. C'est elle aussi qui enfante en quelque sorte entre guillemets de Piaf, de Fréhel, de tout ça, c'est de Barbara jusqu'à. Ouais. C'est-à-dire qu'elle serait pas là, ça aurait pas été la même chose.
C'est un peu la matrice. Alors je vous propose d'écouter par exemple un extrait de À présent que t'es vieux.
Magnifique.
J'arrête solide pour d'autres victoires, tu m'as planté là. Bah maintenant que t'es mûr pour les invalides, tu dis de ce qui reste, ça la contentera. Vois-tu la valeur qui fait les conquêtes, ça s'en va toujours en même temps que les cheveux. Et si j'en juge par ce qui te reste sur la tête, t'es rudement mangé à présent que t'es vieux. La 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 la.
Extrait donc du troisième volet que vous mettez en scène au Théâtre du Soleil, chanté donc par Nathalie Joly. Oui. Il faut aussi un sacré caractère et une sacrée voix pour reprendre du Yvette Guilbert.
Ah, il faut du coffre et de la mâchoire, ça c'est sûr.
Et là,
parce que la langue, elle est vraiment bon. C'est une langue construite. C'est pas mou quoi, comme langue, comme écriture. Donc il faut vraiment beaucoup de mâchoire. Il faut des belles cordes vocales et du coffre quoi. Enfin tout pour faire quelqu'un qui a envie de monter sur scène. Mmh.
Bon, alors, Mylène Farmer, elle n'a pas besoin de ça, elle monte sur scène quand même.
Ouais, c'est vrai, il y a des exceptions.
Simon Abkarian, vous mettez en scène donc, le troisième volet de ce spectacle. C'est un répertoire, c'est finalement deux personnalités, c'est Yvette Guilbert, mais c'est aussi Nathalie Joly. Mmh. C'est une ambiance, c'est une époque. Mmh. Donc comment vous organisez tout ça pour le faire réémerger?
En fait, nous on a essayé, parce que Jacques Verzier qui a mis en scène les deux premières, Jaco, les deux premiers volets, on a essayé de à chaque fois de donner un caractère précis, et moi je voulais travailler sur le glamour quoi. Je voulais travailler sur l'extrême féminité de ça. On voulait pas ni elle ni moi tomber dans, ni au piano d'ailleurs, Jean-Pierre Gisbert qui est au piano, tomber dans la reconstitution historique et musicale, parce que c'est pas un spectacle anthropologique. On a voulu non pas actualiser, parce que le spectacle, les chansons sont suffisamment fortes pour parler de notre monde présent, mais on voulait.
Elle est en avance sur son temps, Yvette Guilbert.
C'est une époque où les femmes n'avaient pas le droit de vote. C'était. Ouais. Et du coup, c'est d'un féminisme de dingue. Il y avait des choses qui étaient permises. Il y a de la transgression. C'est bizarre de penser que les bourgeois, ils allaient voir des filles comme ça pour s'en prendre un petit peu plein la gueule.
Elle change, je suis une pocharde quand même, en disant quand je bois trop, je suis comme un mec.
Ouais. Non, mais c'est ça qui est beau avec elle, c'est qu'à un moment donné, elle rentre dans tous les... Bon, c'est quelqu'un qui a connu la misère, donc comme tout artiste normalement constitué.
De cette table.
Non, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on devient artiste, on embrasse l'idée de la précarité, quelque part. Elle l'a fait concrètement. Et puis, tout d'un coup, elle se met à force de chanter. Parce qu'elle se met à chanter, il faut le dire, parce que ça rapporte plus. Donc, elle se met à chanter et Freud participe, assiste à un de ses concerts un soir à Paris. Il se lie d'amitié. Donc, elle a une correspondance... assidu avec Freud, ce qui est un petit peu pas mal quand même, parce que c'est d'abord une femme et que ces messieurs daignent difficilement de parler aux femmes à cette époque-là. Donc lui, il le fait, c'est une preuve d'intelligence de sa part. Et puis c'est quelqu'un qui vient d'un milieu pas très riche, quoi. Donc tout ça, c'est assez joli, je trouve, parce que c'est des époques encore, mais jusque dans les années 80, ça se pratiquait, où on voyait les choses, parce que je suis vieux, moi, les choses se mélanger, les différentes, on pouvait aller en boîte et rencontrer des gens qui venaient de la banlieue et puis rencontrer Imorosi, quoi.
Yvette Guilbert, portraitisée aussi par Toulouse-Lautrec.
Ouais.
On la voit souvent dans les peintures. Simon Abkarian, donc vous mettez en scène le troisième volet de Yvette, et on peut voir les trois volets au Théâtre du Soleil, à Paris. Ce sera à partir du 28 septembre jusqu'au 22 octobre. Et le coffret 3 CD est disponible depuis le mois de septembre. Découvrez ces titres qui sont fabuleux et cette écriture. C'est Yvette Guilbert, chantée par Nathalie Joly. Mise en scène, Simon Abkarian. We put a spell on you.
Oh yeah.
Put familiar, okay.
I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up?
put a spell on you.
I put a spell on you. Vous aimez ça, Simon
Apcarion? J'adore cette chanson, j'adore chanteur. Ouais.
Vous êtes sur France Inter, par Jupiter, et Simon Apcarion est avec nous. Il met en scène l'un des épisodes du spectacle musical Yvette, 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 de Nathalie Joly, qui chante Yvette Guilbert. C'est au Théâtre du Soleil à Paris, à partir du 28 septembre. Et pour entourer Simon Apcarion?
Eh bien, les meilleurs, André Manoukian, Juliette Arnaud et Guillaume Meurice.
Et bien sûr, de l'information de qualité.
Je revendique l'immaturité et l'inexpérience politique.
Le journal de presque 17h10.
Mais je sais pas ce qui se passe, mais il me donne du génie, ce cochon.
On commence par les titres.
Emmanuel Macron est actuellement à New York pour l'Assemblée Générale de l'ONU.
Oui, vu comme l'ONU a du mal à se bouger, il y a un risque qu'il pète les plombs et qu'il traite tout le monde de fainéant.
Laurent Wauquiez ne réclame plus l'abrogation de la loi sur le mariage pour tous.
Bah du coup, Taubira est embauché.
Des brèves?
Mais oui, les brèves avec nous.
Et nous commençons avec Florian Philippot qui s'adresse à Marine Le Pen en déclarant « On ne refondera pas le FN avec un pistolet sur la tempe ».
Et il a raison, hein, c'est pas comme si au FN ils avaient besoin d'un trou de balle de plus.
Mais oh, non, je veux dire, d'un orifice dû à un coup de fusil que j'entendais. Moi.
Exactement.
Marine Le Pen, elle a une nouvelle fois demandé à Florian Philippot de lever les ambiguïtés.
Eh oui, mais c'est vrai quoi. Alors Florian, on attend. Est-ce que oui ou non, en mangeant du couscous, tu as prêté allégeance à Daesh? Il faut qu'on sache.
On reste à droite dans Valeurs Actuelles à paraître jeudi, disponible dans toutes vos toilettes. Laurent Wauquiez estime que Macron n'est en rien de droite.
Mais oui, c'est ça Lolo. Et toi, tu n'es en rien d'extrême droite.
Attention, Laurent Wauquiez ne réclame plus donc l'abrogation de la loi sur le mariage pour tous.
Dans 2-3 ans, on le retrouve dans un short en latex sur un char de la guépard. Il progresse.
Droite toujours, Nicolas Dupont-Aignan aime toujours autant les journalistes.
Mais oui, en témoigne son chauffeur de salle lors du meeting de ce week-end qui annonce aux gens qu'on a refusé les journalistes de quotidien.
Enfin, les journalistes, les propagandistes, alors on va nous dire la liberté de la presse, alors je sais pas, peut-être qu'on peut faire un vote, est-ce que vous voulez qu'on fasse rentrer les journalistes
C'est okay. Toujours bien de demander aux gens ce qu'ils pensent.
International, une statue de l'inventeur de la Kalachnikov a été inaugurée à Moscou.
Oui, un tel hommage ne pouvait avoir lieu qu'à Moscou ou à Marseille. Ils ont hésité.
Économie, l'enseigne américaine de vente de jouets Toys R Us s'est déclarée en faillite.
Oui, donc si des enfants nous écoutent, Noël est annulé. Il n'y a plus, on le fera pas. Voilà.
André Manoukian, remettez-vous, parce que j'ai entendu votre petit... Oh,
vous avez un contrat sponsoring? Vous avez des pubs en attente ou...
Économie, joué, toujours. En France, 240 000 personnes vivraient de la vente du cannabis.
Beaucoup plus que le nombre d'emplois créés par Pierre Gattaz. Donc, chapeau à eux.
Santé, sondage révèle que le cancer, la maladie d'Alzheimer et l'AVC font peur aux Français.
Ça valait la peine de faire un sondage. Il y a des études vraiment extrêmement
utiles. Passons au sport et au tennis, parce que la finale de la Coupe Davis entre la France et la Belgique aura lieu à Lille.
Mais oui, les organisateurs sont prudents, vu comme
comme les Belges ont l'habitude de fêter leur victoire, il valait mieux que la route du retour soit très courte, évidemment.
Mais attendez, c'est super,
alors,
Lille.
Lille, c'est super. Alors, c'est très pratique pour nous, mais pour les Français, c'est une mauvaise idée. Ils viennent de Suisse, les gars.
Oui, donc, je sais pas, c'est passons là. Aux médias. Oui. Oui. Antoine Decaune a débarqué hier soir à poil à la nuit du rugby.
Oui, les restrictions budgétaires à Radio France ont fait leur première victime. Antoine, courage à toi.
Média toujours.
Oui, oui, oui. Sur notre antenne, je tiens à dénoncer Nicolas Stoufflet, qui prend un peu mon travail lors du jeu des 1000 euros.
Donc vous astiquez votre engin pour pouvoir profiter un peu de la vie.
Eh ben oui, se moque des gens qui ont des mobilettes, les blagues de cul sur cette antenne, c'est moi.
Et oui, ça puis les brèves, c'est vous.
Et les brèves, c'est moi aussi. Alors, deux brèves. Des liasses de billets de 500 euros bouchent les toilettes d'une banque suisse.
Ah bon, est-ce qu'on n'en sait plus?
Eh bien, selon l'enquête, il pourrait s'agir d'argent sale, du coup.
Oui,
ah,
il y a un jeu de mots. Allemagne, un homme se coince le pénis dans un halter de 2,5 kilos. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le pénis et le bois, attention.
17h25 sur France Inter avec Simon Abkarian qui a bien voulu rester malgré tout ce qu'il a entendu.
Nicolas Stouffet, prends ça. Hein,
et voici le premier sujet. Le premier sujet avec vous. En 2010, 15% des Catalans seulement réclamaient l'indépendance. Aujourd'hui, ils sont plus de 40%. Et demain, ils vont sans doute la voter lors du référendum organisé le 1er octobre. Une décision qui va encore secouer l'Europe, d'autant que l'autonomie se réclame un peu partout, rappelez-vous.
Puisque les Basques et les Bretons, les Alsaciens, les Occitans, les Corses, les Ch'timis, les Wallons, ils veulent tous être indépendants. Puisqu'ils veulent tous l'autonomie, qu'a priori ils ont pas tort, ben c'est décidé. Moi aussi, je prends ma guitare et je crie bien fort que je suis l'autonomiste de la porte d'Orléans.
Dans cette chanson de Renaud se dégage un romantisme échevelé lié à l'autonomie. Est-ce que ça s'applique aussi, selon vous, à la volonté d'indépendance de la Catalogne? Vous lui trouvez une flamboyance ou...
C'est aux Catalans qu'il faut demander. Moi, je suis pas partie prenante là-dedans. Je pense qu'un peuple, s'il a envie de se déterminer d'une manière ou d'une autre, il faut qu'il le fasse.
C'est-à-dire le droit à décider, c'est un droit qu'ont les peuples. Vous y tenez, vous?
Ben ouais, ouais, j'y tiens. Et c'est en train de se passer partout dans le monde. Au Moyen-Orient, on assiste à ça. Les Kurdes, ils sont en train de le faire. Les Turcs, ils sont en train de ranger leurs chars à la frontière irakienne parce qu'ils veulent pas que ça se fasse. Enfin, à un moment donné, on a envie de dire laissez les gens choisir pour eux-mêmes et par eux-mêmes, quoi.
Oui, le problème, c'est qu'après, enfin, nous, en tant que Belges, on est en première ligne, donc on voit tellement arriver ça. C'est qu'après, vous allez voir que la Catalogne étant plus riche que le reste de l'Espagne, elle veut l'indépendance, mais maintenant, la Catalogne du Nord va être plus riche que la Catalogne du Sud et va se trouver sans doute une nécessité d'indépendance. Donc, est-ce que c'est pas une porte ouverte à...
Est-ce que le problème, c'est pas les humains?
Non, le problème, c'est les humains. C'est surtout le concept de la propriété privée. C'est ça le problème, le vrai problème du fond. Et pour tous les sujets qui vont suivre, je pense qu'on va revenir.
Ça va être non mais c'est intéressant, qu'est-ce qui définit, parce que vous parlez de peuple, c'est compliqué, qu'est-ce qui définit selon vous un peuple?
Ah, j'en sais rien, je suis pas un exagète, mais en tout cas la langue y est pour beaucoup son mythe qui pense lui être propre, voilà, ses mythes, ça c'est sa langue, ses danses, ses chants, et je pense que tout est contaminé par l'autre, donc c'est difficile à définir à un moment donné, parce que on peut pas dire que les Catalans chantent très d'une manière très éloignée des Castillans, ou voilà. À un moment donné, c'est très très difficile à... Maintenant,
culturellement, vous voulez dire
culture, et puis l'histoire raconte, il y a des séquelles, il y a des traumas qui font que les gens ont envie de se séparer des autres parce qu'ils sont pris, ils sont tellement pris plein la gueule par leurs voisins qui les ont dominés pendant tant d'années, ils se disent peut-être que c'est l'occasion de se barrer. En tous les cas, quand on regarde les Écossais qui ont essayé de qui ont fait un référendum et qui finalement sont restés, et ils ont bien fait parce que du coup ils restent en Europe et pas les Anglais, ça c'est drôle.
C'est clair.
Je trouve ça assez drôle. Donc voilà, et puis on avait tous peur, tout le monde tremblait en Angleterre, et puis finalement ils ont voté contre, donc j'en sais rien.
Alors la Catalogne c'est 20% du PIB de l'Espagne, et on est dans un continent qui est quand même relativement apaisé, est-ce qu'on peut, on n'est pas en train de se dire quand même que c'est les riches veulent... Les riches veulent relever leur impôt et puis de ne pas devoir à personne. Et la c'est la question de la solidarité nationale, peut-être, jusqu'où elle peut aller.
Parce que moi, je ne connais pas très, très bien le dossier.
Mais
ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le référendum serait organisé, les indépendantistes seraient organisés par une faction de gens riches.
C'est une province qui est riche.
Ah oui, d'accord.
C'est le même problème que la Ligue du Nord en Italie. C'est-à-dire, ils disent on ne va pas payer pour les mecs du Sud.
Ou ils disent rendez la Sicile aux Marocains, c'est ça?
C'est dans le même esprit.
Ça, c'est une bonne idée, Simon Abkarian.
Il y a un problème, nous en Belgique, on s'en rend compte, de l'activisme des politiques. Parce que si ça se sépare, il y a deux parlements, il y a deux gouvernements. Et ça arrange tout le monde qui ait plus de travail à cette échelle-là. Et donc, les politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont toujours assez envie qu'il y ait fédéralisation de l'État. En tout cas, chez nous, c'est comme ça.
Ouais.
Et donc, font tout pour instrumentaliser le vote à venir.
Tout cas, c'est extrêmement compliqué.
On s'en est rendu compte vers 16h45, donc on ne pouvait plus changer le sujet.
Est-ce que le référendum est légal, pas légal, l'abstention ne compte pas, etc. Donc, vous savez quoi, attendons le 1er octobre, parce que si ça se trouve, il n'aura pas lieu, et on aura oublié ce sujet.
Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils aient interpellé, je ne sais pas, 700 maires,
Oui, alors les maires qui sont favorables au référendum sont menacés.
Je trouve ça sont menacés. Il y a des vieilles pratiques qui reviennent un peu comme ça. Tu te dis, ah putain, c'est pas fini, je croyais que ça l'était.
Et les pressions et la saisie des tracts de propagande, etc., ça commence à être très, très tendu quand même pour les voisins.
Bah, c'est pour ça qu'il faut faire des tracts de théâtre, pas des...
Mais oui
de...
Ça, c'est beau. Ça, c'est
par exemple,
réponse.
Ce Divette. Nathalie Joly chante Yvette Guilbert au Théâtre du Soleil, mis en scène par Simon Abkarian.
Et Jacques Verdier, je le souligne.
Effectivement. Parce que vous mettez en scène le troisième volet.
Le troisième, et Jacques a mis les deux premiers en scène, et Jacques est quelqu'un, un artiste extrêmement talentueux, un acteur-chanteur extrêmement doué, et doublé d'une personne douce et intelligente, donc voilà.
Oh, dites donc. Il est célibataire.
Je pense pas.
André Manoukian, vous êtes parti d'Yvette Guilbert, de Nathalie Joly, de Simon
Abkarian. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de remonter le fil et de le descendre. J'adore monter le fil et le descendre. Vous savez, la musique, c'est un fleuve et on est nourri de ce qui vient avant. Et à ce titre, on peut dire qu'Anaïs est la digne descendante d'Yvette Guilbert, dont un des premiers tubes s'appelait La Pocharde. Anaïs, dont un des titres de son dernier album s'intitule Je ne boirai plus jamais. Anaïs est la plus folle dingue de nos chanteurs hexagonale, et la chance, c'est qu'elle est la plus musicienne aussi. Petit aperçu d'un genre qui, sous son air futile, cache un vrai savoir-faire, la musique légère. Anaïs a repris la flèche d'Yvette Guilbert pour la lancer dans la même direction et dans le cul de la bien-pensance. C'est ça que j'aime dans la flèche de Nietzsche, hein. C'est qu'elle va dans la même direction, mais c'est toujours dans le cul de quelqu'un. Anaïs est la chef incontestée.
Nietzsche l'a pas vraiment dit comme ça. C'est une traduction un peu libre.
C'est ça. Mais moi, quand je les aime, j'ai l'impression qu'ils font partie de ma famille. Et qu'à ce titre, on reprend l'héritage aussi. Alors, elle est la chef incontestée d'un escadron de chevaux légers qui aurait assimilé l'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera, dont le brillant héros porte les valeurs de l'infidélité amoureuse aussi haut que celles de la fidélité à ses opinions, et qui, refusant de se renier en plein régime stalinien, se retrouve garçon de porcherie alors qu'il est un éminent chirurgien du cerveau. C'est un peu ça l'histoire d'Anaïs, rangée des labels de l'industrie du disque qui la brimait pour retrouver tout le jus de la chanson synaptique. C'est quoi la chanson synaptique? Oui, c'est de la chanson avec du poil à gratter sur les neurones, de l'attaque en règle de toutes nos petitesses de bobo, des aléas de la femme urbaine postmoderne prise dans les méandres de sentiments qui datent de Cro-Magnon et dont elle n'arrive pas à se défaire, les hommes restant eux tranquilles à ce stade sans que ça leur pose plus de problèmes que ça. La jeune femme est érudite. Sa musicalité est aboutie. Elle sait manier le R&B, le swing à l'ancienne, la soul, la country. Sa reprise de Crazy de Patsy Cline l'atteste. Le jazz, le folk, le rock trash, aucun genre ne lui résiste à Anaïs. Et le pire, c'est qu'elle les maîtrise si bien ces genres qu'elle les réinvente, elle les revisite, elle les décape à l'eau de Javel, comme le titre de cet album sur lequel elle reprenait des standards de soul avec des traductions françaises au premier degré hilarant. C'est peut-être ça le vrai problème d'Anaïs. À la manière du joueur d'échecs de Stefan Zweig, vous savez, Simon, elle a tellement de coups d'avance que parfois ça tombe un peu à côté. Alors, depuis, elle s'est assagie, elle s'est ressaisie tout en ne reniant rien pour nous donner un album somptueux où toutes ses influences, ses goûts, son anglais,
son humour, son français, son feeling, sa vibe, son flow, son timbre, son groove, son déhanché de la glotte, son néo-psychédélisme de gauche, son analyse au scalpel des rapports garçon-fille, fille-garçon, fille-fille, garçon-garçon, son sens de la mélodie, du riff, du son, il faut l'avoir dirigé ses lascars de musiciens en studio, son enthousiasme, sa schizophrénie, son optimisme, son cynisme, son désespoir, sa compassion, sa douceur, son vitriol, son sucré, son salé, son sushi béarnais dont elle a une recette délicieuse qu'elle a inventée, sa sensualité débridée, son lâcher prise et en même temps qu'elle a une freak control, ses aigus, ses graves, son voile, son vibrato, son absence de vibrato parfois, son à plat façon Douanier Rousseau, ses portraits cubistes de nos contemporains du 3e arrondissement de Paris, ses moqueries des néo-hippies revenus en Ardèche sur les terrains en friche des communautés de leurs parents, sa 403 customisée, sa mobilette au kérosène, son côté Julien Doré, son côté bombasse, son côté badass, ses promesses non tenues, ses désirs fidèles, ses comptines pour jeunes filles bourrées, délicieuses, ses conseils de bonne copine, son rire, ses larmes, ses soirées jusqu'au bout de l'ennui, ses réveils difficiles.
Son dictionnaire des synonymes.
Ses matins solarium avec lunettes de strass, son timbre de country girl. Oui, tout ça est fondue dans le creuset de son savoir-faire et elle peut enfin se la péter dans une piscine avec ses copines Elena Noguera et Nicole Ferroni, regardez le clip, pour jouer des codes sexy décalés, terriblement sexy aussi, toutes les trois en biatch du cosmos pour nous faire une Corée aquatique et torride et fêter la bonne nouvelle de cette rentrée qui s'annonçait pourtant morose. Anaïs a retrouvé son mojo et nous avec Quand on l'écoute. Feu.
C'est Anaïs qui le dit sur son nouvel album Divergente. Anaïs qu'on va recevoir bientôt, vers la mi-octobre. Ouais. Mais si, je vous assure, c'est quand même magique.
Surtout les bons coups. Hein.
Et une héritière alors d'Yvette Guilbert, sans doute.
Ouais, ce serait bien de la recevoir aussi.
Déjà.
Pas au téléphone, donc on a pas mal.
On mettrait une peinture de Toulouse-Lautrec sur le bureau. En tout cas, c'est Nathalie Joly qui la chante au Théâtre du Soleil à partir du 28 septembre. Et le coffret des trois CD est disponible avec les chansons des trois spectacles. Le répertoire d'Yvette Guilbert repris par la voix puissante de Nathalie Joly et son mojo à elle. Simon Abkarian est avec nous jusqu'à 18h par Jupiter. Juliette Arnaud à venir et tout de suite.
Mais sur Twitter, les gens nous disent j'aimerais avoir le même talent que Manoukian pour remplir mes copies de partiels.
Et oui, je comprends.
Je suis enthousiaste. Il faut aimer. Un peu amoureux, voilà, c'est ça.
Et oui. Guillaume Meurice ?
Oui, présent. Je vais vous parler des suites du fameux Couscous Gate. Hein, la polémique se répand comme une traînée de semoule. Florian Philippot risque l'exclusion pour cette énième provocation, donc avoir prêté allégeance aux pois chiches. La bouffe, c'est vraiment le sujet sensible du moment. On a en parallèle une croisade de Valérie Boyer contre les yaourts qui enlèvent les croix des monastères sur leurs emballages. Alors, on craint l'escalade, hein, tout le monde flippe, on s'interroge. L'ami Ricoré a-t-il fait sa communion ? Justin Bridoux est-il circoncis? Mamie Nova porte-t-elle la burqa entre deux spots de pub? On a peur, la France a peur. On est le pays de la bouffe, les Français y sont attachés, c'est comme ça. Moi j'en ai rencontré ce matin des Français. Sommes-nous en train de perdre notre patrimoine?
C'est pas bien que je vous réponde parce que moi je suis de culture Europe centrale.
Qu'est-ce que c'est?
J'ai assimilé une partie de la culture culinaire de ma grand-mère qui est du Massif central et de mon père qui est russe. Voilà.
Ah, donc vous faites des mix entre les deux?
Je fais des mix entre les deux.
Qu'est-ce que ça donne alors? De l'aligot à la vodka par exemple?
Oui, à la vodka bien sûr et au borscht.
Bon, excusez-moi, ça va très bien. Excusez-moi, je suis pour le mélange des cultures, ouais. Je dis juste qu'il y a des limites quand même. Le cassoulet Nutella, je suis pas prêt. Déjà la pizza à l'ananas, je considère que c'est un crime contre l'humanité. C'est pas parce qu'il y a des mélanges que c'est bien, hein, je tiens à le rappeler. Le mélange par exemple Arménie-France, pour le spectacle ça marche, pour les chroniques c'est un peu moins bien.
Alors allons
voir cette fois-ci une vraie patriote, hein, n'est-ce pas madame?
Oui, moi je mange français chez moi, hein.
Et ça vous arrive jamais par exemple de manger des pommes de terre?
Ah si, oh, ben heureusement que j'ai...
Ah mais les pommes de terre, ça vient d'Amérique, hein?
Oui, mais moi je mange beaucoup de pommes de terre, de riz. Ça vient de chez les graineries, là-bas.
Les graineries.
Et ben, les yeux bridés.
Oh, oui, alors attendez, calme-toi Michel Leb. On sent le dérapage, hein. Dans deux minutes, c'est peut-être même Sébastien Leb, en fait. Alors, est-ce qu'on peut faire le parallèle avec ce qui se passe avec les yaourts? C'est ça qui est important. Alors monsieur...
Bon, c'est sûr qu'il y a de la connerie dans l'air, on est d'accord. Mais on ne peut pas mettre ça dans le même panier.
C'est pas... Pour vous, le couscous et le yaourt, on ne peut pas mettre dans le même panier? Si on a un gros panier.
D'accord, ouais, je ne vais pas partir là-dessus, oui. On peut même pas plaisanter sur un truc pareil.
Non, je sens bien que c'est très tendu, je ne plaisante pas. Hein, j'ai bien conscience de la gravité de la situation. Kim Jong-un et ses missiles à côté, c'est de la couille de mythe. Je suis tellement conscient, je vais vous dire, hein, que ce qui se passe est grave, que je suis carrément remonté à la source. Donc, qui est-ce que j'ai appelé? Le restaurant Sherazade de Strasbourg, celui-là même qui a servi Florian Philippot, voilà, la base de l'histoire. Et évidemment, le patron du resto défend son client.
Il ne peut pas, le pauvre, manger pendant toute la semaine les choucroutes et il aura pris du poids. Hein.
Ah oui, en plus. Bon, le couscous, ça ne fait pas maigrir non plus.
Non, m'excusez, le couscous, c'est un plat complet. Il y a du féculent, il y a de la viande, il y a des légumes. Et c'est à vous de tout terminer l'assiette et vous êtes gonflé, ou vous mangez correctement, vous êtes bien. Et puis, bon, la casse-zère, tout le monde a un type de casse-zère.
Oui, mon Dieu, on conseille quand même la casse-zère. En plus, ça sonne un petit peu alsacien, le casse-zère. Donc c'est pas mal, on prend moins de risques. Mais alors, est-ce qu'on parle de Philippot quand même? Qui est-ce qui vient d'autre dans son couscous?
Et les gens viennent, hein. J'ai beaucoup de parlementaires qui viennent, il n'y a pas que lui.
Ouais.
Même son concurrent, il est venu il y a 7 mois. Monsieur Gollnisch, si la personne l'a vu.
Ça veut dire que Bruno Gollnisch, il mange du couscous aussi?
Bien sûr.
Oh là 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 là.
Il parle presque l'arabe s'il continue à manger
du
couscous.
Putain, mais c'est pas possible. Deuxième polémique en vue. Gollnisch mange du couscous à Strasbourg. Putain, mais qu'est-ce qu'on va apprendre bientôt? Que Goebbels, il mangeait cachère. Oui, c'est un point Godwin, mais parce que c'est très flippant. Bon, j'avais une dernière question pour lui. Est-ce que quand même, vous pensez que Florian Philippot a commis une boulette en venant chez vous?
Absolument pas. Absolument pas.
On peut donc pas parler de l'affaire du couscous boulette, quoi.
Absolument pas. Sincèrement, il y a des boulettes de viande dans le couscous, mais lui, il n'a pas fait de boulette. Hein. Il ne prend jamais de couscous boulette, il prend toujours de couscous grillade. Donc, il n'est pas grillé encore.
Voilà, on est dans le jeu de mots. Bon, il n'est pas encore grillé, mais ça ne saurait tarder. Il faut quand même qu'il surveille ce qu'il mange. Quant à nous, voilà, des polémiques à la con, des xénophobes en tout genre, on n'a pas fini d'en bouffer.
Merci, Guillaume Meurice. Vous êtes quand même une fameuse saucisse. Hein.
Je le prends comme un compliment.
Mais bien sûr. Simon Abkarian est toujours avec nous malgré tout ce qu'il a entendu et ça c'est formidable, vous êtes vraiment un bon camarade Simon. On va aborder le deuxième sujet avec vous, l'obsolescence programmée, c'est un délit depuis 2015 et là bim, la première plainte est tombée, déposée par une association contre plusieurs marques d'imprimantes. Encore faut-il prouver que la durée de vie de l'appareil a été volontairement écourtée par le fabricant lui-même et pas par une mauvaise manipulation.
Il est tombé ce GSM, hein ?
Non, non, non.
Je sais.
Bah non.
Si, si. Je le vois.
Est-ce que vous le voyez ?
Je ne vais pas vous dire où je le vois, mais je vois qu'il est tombé. Vous me racontez des histoires.
Est-ce que je vous dis que non ?
Mais je vous dis qu'il est tombé.
Bah non,
bah, je vous dis. Il ne faut pas raconter des histoires aux gens.
Mais je sais bien.
Si je vous dis qu'il est tombé, vous me dites oui, monsieur, il est tombé.
Je ne vais pas dire oui quand il n'est pas tombé, quand même.
Si, quand il est tombé, il faut dire oui.
Quand il n'est pas tombé, je dis non.
Non, il est tombé.
Mais moi, il n'est pas tombé.
Si, il est tombé.
Mais putain, je vous dis qu'il n'est pas tombé.
Je vous dis qu'il est tombé.
Il est tombé. C'est François Lambrouille, une caméra cachée de François Damiens. Voilà pour ce sujet. Première plainte déposée pour obsolescence programmée contre des fabricants d'imprimantes. Seul un Français sur cinq considère que c'est une évidence de réparer un appareil électroménager plutôt que de le jeter. Vous faites partie de ces un Français sur cinq qui trouve naturel de réparer plutôt que de jeter tout le bazar.
Ouais, moi je pense qu'il faut réparer, il faut savoir réparer. Enfin, moi, au Liban, quand on était dans mon quartier, il y avait des gens qui réparaient des machines à laver, des frigos. J'ai travaillé chez un gars qui réparait les frigos, ouais. Les voitures, les postes de télévision. Enfin, tout ça, ça se réparait, quoi.
C'est vrai que la diaspora libanaise, notamment en Afrique, c'est ceux les premiers qui réparaient les téléphones portables, etc.
Bah oui, il faut réparer.
Et avant ça, les téléviseurs, etc.
C'est comme si votre chaussure est craque et puis vous l'achetez, il faut être con, quoi. Vous achetez le cordonnier, on la répare et puis on la remet, quoi. C'est
débile. Mais vous qui avez travaillé dans la chaussure aussi, justement, ouais. Il y a une espèce de défi à les garder le plus longtemps. Quand on a travaillé là-dedans, on se met un point d'honneur.
Quand les chaussures sont bien faites, quand le cuir est bien tanné, ouais. Ça se garde toute une vie, une paire de chaussures.
Vous aurez qui s'y connaît là-dedans.
Ah bah oui, ma maman est dans les chaussures.
Eh oui, mais bien sûr. Et vous-même, vous êtes du genre à réparer pour garder les objets.
Ouais.
Mais quoi, vous pourriez réparer mon grille-pain, un truc comme ça.
Ouais. J'ai tenté de, j'ai démonté le mien là dernièrement.
La technique de drague la plus pourrie du monde. Vous pourriez réparer mon grille-pain.
J'ai pas demandé de réparer ma douche.
Mais il y a quand même un petit plaisir à se dire bon, il est cassé, j'ai le droit de m'acheter un nouveau. Pour le téléviseur, par exemple.
Non, mais ça devient compulsif. À un moment donné, ça devient compulsif. C'est-à-dire que le temps de la réparation, il fait plus partie du temps de vie. Or, c'est un temps de vie, réparer un objet, lui redonner, justement, vie. Les Japonais, ils sont forts pour ça. Il y a un art qui s'appelle, je sais plus comment, c'est quand ils brisent leurs assiettes, quoi. Ouais. Ils les recollent avec, et ils mettent de l'or dans les fissures. C'est assez joli comme, je sais plus comment ça s'appelle.
Ah ouais,
et Catherine, ma camarade de classe, est là-dedans en ce moment, parce qu'on casse pas mal de choses à la maison. Parce que tout souvent, on n'est pas d'accord. Donc, mais pas le grille-pain.
Ah oui. Pas le grille-pain. Je sais pas, moi j'ai un truc viscéral, je n'arrive pas à jeter le truc parce qu'il faut absolument le réparer.
Je vois le
déchet dans le et ça me rend malade.
Tant que le PIB sera l'horizon indépassable de l'espèce humaine, on continuera à vouloir. Exactement. Ou en tout cas, nous faire acheter des choses pour le faire augmenter.
Mais technologiquement, les mecs essayent de faire des prouesses pour que vous ayez envie aussi d'en acheter.
Non, ils font des prouesses pour que ta machine à laver, elle se pète à un moment donné.
Je suis d'accord, mais je parlais juste de l'envie, de potentiellement...
Et comment on fait pour prouver alors?
Ah bah ça c'est toute la question, ouais. c'est la difficulté.
Parce que si on ne sait pas réparer, on ne sait pas
Il ne faut pas prouver, il faut essayer de voir quelle est la bécane qui va marcher le plus longtemps et puis boycotter les autres, c'est tout.
Voilà. Ah mais voilà,
il y a un texte de loi, parce qu'on le vanne souvent ici, il y a un texte de loi qui avait été proposé par Jean-Vincent Placé à l'époque. Ah, hommage lui soit rendu, feu Jean-Vincent Placé.
Là-dessus.
Mais bon.
Jean-Vincent Placé, qui est le premier victime de l'obsolescence. Lui-même.
Juliette Arnaud, allons un petit peu vers la littérature.
La littérature, oui. Alors,
si vous voulez.
C'est pour ça qu'on vous paye, en fait, hein, Juliette Arnaud.
Non, alors, parce que.
Et sinon, vous l'avez lu?
Moi, oui. La chair est triste. La chair est triste, disais-je, hélas, et j'ai lu tous les livres. Alors, c'est pas de moi, bien sûr, hein, c'est de Stéphane Mallarmé. Moi, j'ai pas lu tous les livres, et je ne pense pas tous les jours que la chair est triste. En revanche, Souvent, je me suis demandé ce qu'il en était pour les autres de la chair. Est-ce que les autres y font mieux ? Est-ce qu'ils font autrement ? Est-ce qu'ils font beaucoup autrement ou juste un peu autrement ? Et comme les gens ne racontent pas la vérité à propos du cul, ni à leurs proches, encore moins aux sondeurs ou aux sociologues ou aux toubibs, eh ben j'en sais rien. Enfin, j'en savais rien jusqu'à ce que je tombe sur ce livre, au titre et à la couve évocatrice, Le motel du voyeur, qui est un genre de mix entre tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe et fenêtre sur cour. Tout le monde y est ? Ok. Alors j'insiste, ceci est une enquête. Hein. Le motel du voyeur, ce n'est pas une fiction. C'est pour ça que sur le terme de littérature, je ne suis pas sûre. C'est écrit par un monsieur qui s'appelle Gay Talese et qui est un des acteurs majeurs de ce qu'on appelle le nouveau journalisme. Alors qu'est-ce que c'est le nouveau journalisme ? C'est un mouvement qui date des années 60-70 et on dit que c'est un journalisme qui est nouveau parce qu'il transgresse les lois du journalisme. Ici, pas d'objectivité, on fait place à l'humeur, au goût, à la subjectivité. Les articles sont des articles fleuves. La langue est aussi importante que dans un roman. Le plus connu d'entre eux, c'est Tom Wolfe, le gars qui a écrit par exemple un roman Le Bûcher des Vanités. Et il y a aussi l'idée de l'immersion, hein, quitte à se perdre. Et là, ça, c'est la spécialité de Gay Talese. Alors, il s'est immergé par exemple dans la mafia, dans les saunas échangistes. Voilà, parce que pour les gens du nouveau journalisme, eh ben, il n'y a pas de petits sujets. Il y a des sujets. Alors, un jour, Gay Talese, l'auteur, donc, reçoit un courrier d'un type nommé Gérald Fouss qui lui explique qu'il a un truc qui pourrait l'intéresser. Et le truc, c'est tout simplement dingue. Gérald Fouss, il a un motel dans la banlieue de Denver depuis les années 60, on est à peu près en 1980, et Gérald a comme hobby dans la vie d'être voyeur. C'est sa sexualité. Et comme Gérald, il aime beaucoup, beaucoup son hobby, eh ben, il a trafiqué quelques chambres de son motel avec des fausses grilles d'aération au plafond, avec des petites cachettes attenantes dans le grenier pour espionner ses clients, sans leur consentement donc. Et non content d'en retirer son plaisir, Gérald, eh ben, il a tenu un journal très précis de ses observations. Et ça donne une masse hallucinante de connaissances sur la sexualité de ses contemporains. Il les a observés pendant 30 ans quand même. Et toutes ces observations, il les livre à Gay Talese pour l'éducation des masses, somme toute. C'est une lecture vraiment secouante. Ça m'a fait le souvenir d'une fois où j'étais dans un bar, dans les toilettes du bar, et j'ai essayé de faire pipi. Et tout à coup, au milieu des graffitis, il y en a eu un que j'ai vu qui avait marqué « Je te vois ». Alors, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais alors de suite, j'ai cherché l'œil ton la caméra. J'étais énervée, un truc pas banal. D'ailleurs, à la sortie de ce livre, là, Le motel du voyeur, anonymat ou pas, prescription ou pas, Gay Talese a eu de gros soucis. Eh ben oui, elle est où l'éthique, hein? Eh ben elle est aux chiottes, très clairement. Peut-être on peut être journaliste et délinquant. Ceci étant dit, c'est passionnant, vraiment, comme lecture, c'est instructif et c'est effectivement une lecture de voyeur. Gérald Fousselet, Gay Talese le devient et chaque lecteur, dont moi, participe gaillardement à la manœuvre. D'ailleurs, quid de Gérald Fouss et sa confiance ? Il dit, dans ce qu'il écrit, que si le FBI vient le voir en lui disant « Mais putain, vous êtes quoi, un espèce de pervers ?» il répondra « Et vous alors, Big Brother, depuis des années que vous surveillez de partout où je vais ?» Ça se tient. Et une de mes conclusions préférées de son étude, sur 30 ans, hein, 30 ans de personnes, c'est ça. Les seuls couples qui paraissaient heureux de se donner mutuellement du plaisir au lit et qui avaient la patience et le désir d'amener l'autre à l'orgasme sont les lesbiennes. Et vous, vous faites comment l'amour ? Merci, bisous, merci.
Moi, je suis lesbienne.
Est-ce que vous savez que ce livre a obtenu, il y a très
oui,
peu de temps,
le prix de Sade.
Le prix Sade 2017.
Ah bah dites donc, c'est du propre. Juliette Arnault, merci. Rappelez les références du livre, parce qu'il y a André Manoukian tend la main déjà.
Le motel du voyeur, une enquête de Gay Talese, et c'est dans une super chouette petite maison d'édition qui s'appelle les éditions du sous-sol.
Il n'y a pas de photos, André,
c'est
en fait.
C'est
pas vrai, il y a des photos, mais pas des clients.
Simon Apkarian, avec vous, on va aborder ce dernier sujet. Ce sont les 10 questions les plus fréquemment posées à Google, qui reflètent donc nos 10 principales préoccupations. Google publie régulièrement les données de nos recherches, bien sûr. Donc on connaît la liste de ces questions qui commencent toutes par comment ? Comment faire ceci ? Comment faire cela ? C'est révélateur de notre difficulté d'être, d'après lemonde.fr. Voici par exemple une des recherches évidemment les plus fréquentes.
Bon, faisons la recherche. Je veux un site où il y a des jambes, fesses, poitrine. Le site officiel de la boucherie Armand Cadieux, cette semaine en spécial, pièces de jambon, poitrine de daim, des jambes de porc. Mère bleue, soyons plus précis, femme à poil. Les nouveaux rasoirs Wilkinson pour femmes, fini les poils superflus sur vos jambes. Bon, je vais être plus explicite. Femme sexy qui se montre les parties assises sur le visage d'un homme. Sexisme envers les femmes aux assises du parti. Voilà le vrai visage de l'homme. Suite de cet article dans La Politique et vous. Mais je veux pas de putain d'article de journal, je veux des photos de cul.
Ce sont les 2 minutes du peuple de François Pérusse. Donc, de plus en plus d'internautes demandent à Google des conseils pratiques. Cette requête-là a bondi. Est-ce que, Simon Apcarion, vous auriez une idée de ce que les gens demandent à Google? C'est assez universel, c'est une étude au niveau mondial.
Non.
Vous-même, quand vous faites des recherches sur Google, jamais. Qu'est-ce que vous recherchez?
Jamais. Non, je demande jamais à Google comment réparer mon vélo. Je répare mon vélo, quoi. Ah. Pour revenir aux réparations.
Oui, mais ça, c'est parce que vous savez faire.
Non, mais je demande à quelqu'un qui sait le faire.
Mais il va taper sur Google.
Non, parce que la personne que je vais voir, je saurai qui sait le faire. Non.
La première, c'est comment faire un nœud de cravate.
Ça, je sais très bien le faire.
Au monde, ah. C'est la première.
Quoi ? Ouais, et la deuxième, c'est comment embrasser. Alors, j'ai testé.
Ça, ouais.
J'ai tapé dans Google comment embrasser, et le premier tuto, c'est 2,5 millions de vues. Avec des conseils comme attention au nez, tout ça. N'oubliez pas d'ouvrir la bouche avant de mettre la langue. C'est un petit peu comme n'oubliez pas d'ouvrir la porte du garage avant de rentrer la voiture. Enfin bon, là, je m'égare.
Non, je m'égare.
Je m'égare. Non, je m'égare.
Est-ce que vous êtes absolument persuadé que les mentions de sexe ont été comptées? Parce que je suis très étonné.
Mais c'est comment faire.
C'est précis. Oui, mais il peut y avoir des questions de sexe qui commencent par comment.
Voilà, pour les réparations, d'accord, mais donc jamais vous allez sur Google dire tiens, comment, je sais pas, comment retirer une tache d'huile sur une nappe en lin, je sais pas.
Non, parce que j'ai acheté un bouquin qui traite de tout ça, comment utiliser le bicarbonate de soude, etc., le vinaigre blanc pour pouvoir nettoyer.
Vous êtes un vrai résistant à la Silicon Valley, c'est génial.
Oh, oui, mais alors. J'essaye.
Alors là, moi, je mêle les deux. J'ai réparé une machine à laver en regardant un tuto. Un tuto de quelqu'un qui est vraiment très gentil, qui s'est filmé en train de réparer sa machine à laver.
Non, j'ai fait un truc, c'est comment couper le poisson, comment font les Japonais pour couper le poisson. Voilà, ça j'ai fait. Comment découper du sushi, etc.
Et ça a été probant ?
Non, parce que c'est 10 ans d'études, comment voulez-vous en deux clics apprendre un truc comme ça, donc c'est débile.
Évidemment. Rappelons qu'il y a plein d'autres moteurs de recherche que Google.
Oui.
Hein.
Allez-y. Quartz, par exemple.
Ouais, Ecosia, je crois. Et oui, il y en a plein d'autres.
On le citera la prochaine fois.
Voilà, on les citera tous.
On entrera en acte de résistance. Mmh. Et en tout cas, l'étude globale nous apprend qu'un Américain s'inquiète plus vite de voir sa machine à laver flancher qu'un Européen qui est plutôt porté sur les changements d'ampoule. Alors, ça vous dit le niveau.
Mais ce qui est fou, c'est que très souvent, quand on pose la question, il y a quelqu'un qui se l'est déjà posé.
Et ça, je trouve ça. Par exemple, Alex Vizorek nu, il y a déjà plein d'occurrences.
C'est moi qui les ai mises. Alors voilà, Simon Carian, en fin d'émission, on propose un sketch à l'invité. Il arrive entre vos mains. Vous êtes Emmanuel Macron qui écoute son répondeur parce que son numéro de téléphone a été divulgué sur le net.
Et ça, c'est moi.
Alors, c'est une vraie histoire. C'est un journaliste qui a perdu son téléphone portable et il a été volé. Et la personne a récupéré le numéro de Macron et l'a mis sur Internet. Donc, il s'est retrouvé avec des centaines de messages.
On voit évidemment comment il fait quand il écoute sous ce répondeur. Vous avez 1863 nouveaux messages. Premier nouveau message.
Ouais, c'est le prix de répondeur. Ouais, c'est Jean-Luc à l'appareil.
Ça commence bien.
C'est pour dire qu'à 600 000 voix près.
Ouais, c'est bon.
Suivant nouveau message.
Allô, c'est Manuel Valls. J'avais une idée de collaboration.
Ouais, bien sûr.
Suivant nouveau message.
Emmanuel, c'est Édouard.
À la dure.
Édouard Philippe, ton premier ministre.
Non, je vois pas.
Suivant nouveau message.
Bonjour, Votre Majesté.
Ah, c'est Stéphane Bern.
Oui, rêvez de vous. Vous étiez le roi soleil. Vous faisiez construire un Taj Mahal à Versailles. Et...
Suivant nouveau message.
Oui, bonjour, c'est Nicolas Demeurant, le présentateur de la matinale la plus écoutée de France. Alors, pour votre rentrée radio, je voulais m'assurer que ce serait chez nous.
Compte là-dessus. Ouais.
Suivant nouveau message.
Oui, bonjour, c'est Patrick Cohen, l'ex-présentateur de la matinale la plus écoutée de France et le présentateur de la future matinale la plus écoutée de France. Pour votre rentrée radio, je voulais m'assurer que ce serait chez nous.
Ouais, compte là-dessus. Ouais.
Suivant nouveau message.
Oui, Manu, c'est Jean-Jacques Bourdin.
Ah oui, là, oui.
Suivant nouveau message.
Bonjour Emmanuel, ici c'est ta conscience.
Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Tu avais promis de protéger les libertés publiques, de mieux traiter les migrants et de défendre une diplomatie plus intelligente. Où sont passées tes promesses?
Là, il va peut-être falloir rappeler. C'est joli.
Simon Apcarian, merci d'être resté
alors
avec nous.
Alors j'ai le rôle
Bien sûr.
On vous rappellera.
Et surtout, je rappelle que vous mettez en scène une partie du spectacle de Nathalie Joly avec au piano, il faut le citer, Jean-Pierre Gisbert, la trilogie Yvette. Elle est non seulement disponible dans 3 CD, et aussi vous pouvez voir le spectacle au Théâtre du Soleil à partir du 28 septembre.
Et il y aura à boire et à manger, évidemment.
Oh, bah évidemment, super. Merci Simon Apcarian. Allez, on va laisser le mot de la fin. Bah, à
vous-même, tiens, Simon, à ce que vous avez pensé de l'émission.
Vous posez les mêmes questions les uns et les autres. Vous ne savez pas faire autre chose. Et je ne répondrai plus à ces questions.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
Par Jupiter.